France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
D'où viennent les Étrusques? Je le disais, la question étonne et pourtant déchire les archéologues. Dans son nouveau livre, notre invité Bernard Sergent tranche ce point. Face à ceux pour qui les Étrusques ont toujours vécu en Italie, l'archéologue et historien démontre comment ce peuple qui fascine autant qu'il intrigue a émigré tardivement dans l'actuelle Italie. Alors en quoi ce débat entre archéologues revêt-il un caractère éminemment politique et d'où viennent vraiment les Étrusques? Pour le savoir, Bernard Sergent, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Question du soir. Vous êtes, je le disais, archéologue et historien et vous faites paraître l'aube des Étrusques, c'est aux éditions Les Belles Lettres. Et avec moi, le plaisir d'accueillir ce soir, comme chaque mercredi, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Il y a des animaux. Bon sang. Quelle merveille.
On dirait des offrandes votives. Il y a de l'eau.
Il y a des peintures partout.
C'est magnifique. Regardez ça.
Mais bien sûr, les âmes. Les Étrusques l'ont laissé ici pour nous.
Ça fait 2000 ans qu'elle nous attend ici.
Mario, c'est une déesse.
J'en reviens pas.
Ça, c'est pas des trucs funéraires. C'est un sanctuaire. Un temple.
L'extrait du film intitulé La Chimère, qui est sorti en 2023, qui racontait l'histoire de pilleurs de tombes qui vont piller des tombes étrusques, justement. Bernard Sergent, peut-être une question très large sur ce peuple connu et méconnu à la fois, pourquoi fascine-t-il tant les archéologues, les historiens, une partie aussi de celles et ceux qui s'intéressent à l'Italie, au monde romain dans son ensemble?
Ils intriguent parce que, essentiellement, parce que leur langue n'est pas connue. Elle est lue, c'est l'alphabet inspiré des Grecs, mais les mots ne sont en général pas connus. Donc, il y a eu une quantité de travaux, on a cherché des apparentements. Et dans mon livre, je montre que l'apparentement le plus certain, c'est avec des langues de l'Est du Caucase.
C'est cette absence de langue, cette difficulté à les comprendre, à les lire, à les entendre aussi d'une certaine manière à travers les siècles et l'histoire qui peut-être explique notre fascination pour eux?
Entièrement. Si c'était comme les Grecs, la langue, on la lit, on la comprend, ils n'exercent pas cette fascination, alors qu'ils ont une civilisation très semblable.
Je voudrais vous faire écouter la voix d'un latiniste spécialiste de l'Éturie. Il s'appelle Dominique Briquel. Il s'exprimait en 2024 sur Radio France Internationale.
Déjà dans l'Antiquité, on discutait à n'en plus finir pour savoir si les Étrusques étaient des gens qui étaient des natifs du lieu, étaient ce qu'on appelait des autochtones, ou étaient des émigrés qui étaient venus d'ailleurs. Et en particulier, celui qu'on considère comme le père de l'histoire, du moins dans la littérature classique gréco-latine, Hérodote, racontait que les Étrusques, en réalité, étaient les descendants d'une population d'Asie mineure, les Lydiens, qui auraient émigré dans leur pays. Alors d'autres auteurs racontaient un peu autre chose, disaient qu'ils descendaient des Pélages. Les Pélages auraient été là aussi un peuple assez étrange qui aurait précédé les Grecs sur le sol grec avant l'arrivée des Grecs eux-mêmes. Même chose, ils seraient venus s'installer en Italie. Alors comme si ça ne suffisait pas, les modernes avaient encore rajouté une autre théorie, voulant que ce soit des gens qui viennent du nord, à travers les Alpes, etc.
Une affaire compliquée donc que celle des origines des Étrusques. On va tenter de la démêler avec vous, Julien Bisson, le micro est à vous.
Oui, Bernard Sergent, depuis les années 1970, cette thèse d'archéologue italien s'était imposée, les Étrusques auraient toujours été présents en Italie. D'où vient cette thèse? Est-ce que vous pouvez nous revenir à l'origine de cette thèse?
Alors écoutez, il y a eu jusqu'aux années 70 en France, vous aviez raison, une polémique. Autrefois, donc, il y avait les gens qui défendaient l'autochtonie des Étrusques, comme Briquel, comme on vient d'entendre, et il y avait les gens qui disaient non, ils sont venus de la mer Égée, on a des preuves de la présence d'Étrusques en mer Égée. Jusqu'aux années 70, on pouvait discuter. Chacun savait la thèse de l'autre, on opposait des arguments, j'ose dire, c'était bien. Depuis les années 70, ou fin des années 70, il s'est imposé, en venant d'Italie, un consensus. Et ce sont les gens favorables à l'autochtonie des Étrusques qui se sont imposés. Et donc, d'un seul coup, il n'était plus possible de discuter. Ceux qui soutenaient la thèse inverse étaient ridiculisés.
Et pourquoi ? Y avait des éléments nouveaux ou des théories nouvelles dans les années 70 qui ont imposé cette thèse de l'autochtonie ?
Il n'y avait pas de théorie nouvelle. Il y avait un pouvoir... les gens qui fouillent en Italie, ce sont des Italiens majoritairement. Ce sont donc ceux qu'on appelle les étruscologues. Et c'est eux qui ont commencé à donner la vérité, à répandre la vérité autour d'eux. Le plus important dans le genre, c'est un monsieur intelligent qui s'appelait Massimo Pallottino. Et des Français ont été sensibles à ça, des Allemands ont été sensibles à ça. En revanche, les Anglo-Saxons, beaucoup moins, les Espagnols, pas à ma connaissance.
Ce que vous nous dites là, Bernard Sergent, est doublement étonnant. Étonnant d'abord parce que une polémique s'arrête parce que l'un des deux camps arrive à imposer sa version.
Oui.
La deuxième chose étonnante, c'est que ces personnes-là avaient tort alors.
À mon avis, oui.
À votre avis, mais alors expliquez-nous pourquoi.
Mais parce que ça consistait, de la part de ceux qui soutenaient cette thèse, à ne pas regarder la documentation EGN. Alors je dois vous dire que lorsque j'ai fait le projet de ce livre, il aurait été, s'il avait été conforme au projet, beaucoup plus petit. Il aurait fait quelques dizaines de pages. Je voulais justement retracer, redire les preuves de la présence de ce que j'appelle les Tircènes, c'est-à-dire les précurseurs des Étrusques, les précurseurs égéens des Étrusques. Je voulais résumer, exposer dans un livre les endroits où ils étaient. Il y en a à tel endroit, il y en a à tel endroit, il y en a autour de la mer Égée, il y en a à tel endroit. Il y en a beaucoup dans le nord de la mer Égée, dans les îles du nord de la mer Égée. Il y a même des stèles écrites dans une langue très proche de l'étrusque à Lemnos. Enfin voilà, je voulais revenir sur toute cette documentation. Et puis, après j'ai élargi le débat, et ça a abouti à ce livre-là.
À ce livre passionnant, Julien Bisson.
Oui, un livre où vous rappelez que cette controverse entre historiens, elle ne date pas d'il y a quelques décennies, elle peut remonter à plusieurs millénaires puisqu'elle s'appuie sur un débat entre Hérodote d'un côté et Denis d'Halicarnasse de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces sources contradictoires qui peuvent expliquer la pertinence encore de ce débat 2000 ans plus tard ?
Bon, écoutez, c'est très simple. Hérodote, comme l'a rappelé Brickel tout à l'heure, dit qu'ils viennent de Lydie.
C'est en Asie mineure.
En Asie mineure, c'est une province d'Asie mineure, enfin d'Anatolie, je dis, donc proche de la mer Égée. Denis d'Halicarnasse dit non, il n'y a pas de preuve. Bon, voilà, ça en fait deux. Mais si les gens faisaient intervenir d'autres personnes dans le débat, eh bien tous les auteurs latins de langue latine, les Tacite, les Dion Cassius, etc., qui ont parlé de ce problème, Tite Livre aussi, font venir les Étrusques de la mer Égée. Tous les latins. Et là on le réduit, quand on fait cette opposition entre Hérodote et Denis d'Halicarnasse, on le réduit à deux Grecs. Et là, je ne suis pas content, parce que Hérodote, c'est un homme du 4e, 5e siècle avant notre ère. Il était contemporain de la présence des Tircènes autour de la mer Égée. Il est, en tant que grec, il était d'Halicarnasse, donc c'est un port sur la mer Égée. En tant que grec, il voyait passer des Tircènes qui arrivaient en bateau. Denis d'Halicarnasse, il est de 5 siècles plus tard. Les Tircènes ont disparu. Ont disparu comme population propre, indépendante. Le dernier témoignage que j'ai de Tircènes, et je suis content parce que ça, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est pas dans les sources archéologiques, etc., que j'ai pu chercher. C'est moi qui, en lisant, je lis les auteurs anciens. Théophraste nous dit, Théophraste, donc c'est un disciple d'Aristote, nous dit qu'il est allé à Héraclée rencontrer des Tircènes. Pourquoi il voulait rencontrer des Tircènes ? Parce que Théophraste faisait un magnifique ouvrage qu'on traduit par Histoire des plantes, qui est la première grande encyclopédie botanique de l'histoire. Et il allait voir les Tircènes d'Héraclée parce qu'il pouvait lui parler d'une plante qu'il connaissait à peine et que nous appelons la colchique. Voilà, la Colchide qui tient son nom de la Colchide, qui est au fond de la mer Noire. Voilà. Et donc, nous avons un témoignage magnifique, comme quoi, à l'époque de Théophraste, on est donc au troisième siècle, enfin, première moitié du troisième siècle, hein, il y avait des Tyrcènes encore. Ils étaient ce que des Grecs auraient appelé des périèques, c'est-à-dire un groupe de gens qui ne sont pas citoyens, qui sont dans la ville mais qui ne sont pas citoyens. Et c'était à Héraclée, c'était une grande ville, vous voyez un petit peu la géographie, si on sort des détroits et qu'on tourne à droite, on arrive à Héraclée qui est une grande ville sur la mer Noire. Voilà, donc on a un témoignage magnifique, et, attendez, je suis pas fini.
Je vous en prie.
Cela recoupe entièrement ce que disaient les Latins sur les Étrusques, en disant que les Étrusques étaient des experts en drogue, disons, pas en drogue au sens actuel, enfin en drogue, en plantes qui ont des pouvoirs, disons.
Pharmacopée.
Hein ?
En pharmacopée.
En pharmacopée, disons.
Vous dites, d'ailleurs, on l'entend, Bernard Sergent, vous dites que vous n'êtes pas content. Nous-mêmes ressentons peut-être qu'on pourrait se faire enguirlander si jamais nous faisons un faux pas dans ces explications. Mmh. Pourquoi n'êtes-vous pas content? Pourquoi ce débat-là vous semble-t-il important? Est-ce que c'est un rapport à l'identité, à l'histoire, à ce que c'est qu'un peuple indigène, à ce que c'est aussi que notre rapport aux migrations? Pourquoi est-ce que c'est, selon vous, un débat qui compte et qui compte encore aujourd'hui?
Alors c'est une question complexe que vous me posez là. Disons que je suis historien de l'Antiquité. Je n'ai jamais écrit, enfin sauf un article il y a longtemps, sur les Étrusques. J'ai écrit sur beaucoup de choses. J'avais pas encore écrit sur les Étrusques, mais j'avais ça en tête depuis longtemps. Hein. Dans ma thèse, je parlais déjà de ce qu'on appelle les peuples de la mer. Ma thèse, c'était il y a 40 ans. Vraiment, pour moi, c'est un problème d'honnêteté aussi. Hein. C'est pas le problème d'immigration, de choses comme ça. C'est un problème d'honnêteté. Encore une fois, la thèse, ce que j'appelle fixiste...
C'est les fixistes, on allait y venir absolument.
Oui, hein, ce sont des gens qui refusent, entre guillemets, de voir la documentation EGN, qui est fondamentale, qui donne tout un arrière-plan de l'histoire étrusque que ces gens-là ne refusent de voir. Alors, ils décident que les Étrusques sont descendants de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les Villanoviens. C'est d'une absurdité totale. Si vous regardez une carte archéologique de l'Italie, les Villanoviens, il y en avait en Toscane, mais il y en avait aussi dans la plaine du Pô, il y en avait dans la plaine Nain, il y en avait en Italie du Sud. Pourquoi en Toscane ça aurait donné des Étrusques et ailleurs ça n'aurait pas donné?
Alors on va profiter de ce moment avec vous, du quart d'heure qui nous reste dans cet échange, pour tenter de mieux comprendre justement ce peuple que nous méconnaissons. Je voudrais vous faire entendre une archive de 1967. C'est le professeur Raymond Bloch qui s'exprime. Oui. Il est issu de l'école pratique des hautes études à Paris. Il compte parmi les plus grands étruscologues. Oui, et oui. Nous donne justement son rapport lui-même à ce peuple.
Et bien sûr, moi, là, cette nécropole de Cerveteri est la plus belle, la plus grande qui existe, et c'est un site extraordinaire, comme vous pouvez voir. C'est une véritable ville des morts. Nécropole, c'est cela le sens du mot. Et vous voyez, nous sommes sur une route creusée dans le tuf, tout autour des tumulus immenses, à l'intérieur desquels sont creusés des couloirs qui amènent à la chambre ou aux chambres où sont déposés les morts, avec leur matériel d'offrande. La mort compte plus pour les Étrusques que la vie. Il importe donc d'aménager pour le mort une demeure magnifique qui durera éternellement et où il pourra continuer une sorte de vie ralentie, mais une vie quand même, et qui ne cessera jamais.
Passionnant ce rapport des Étrusques à la mort, aux vivants aussi. Peut-être focalisons la lumière sur un homme en particulier, Julien Bisson.
Oui, pour comprendre la culture des Étrusques, peut-être qu'il peut être utile de rappeler que l'un des plus célèbres Tyrcènes, donc les précurseurs des Étrusques, était Pythagore, le mathématicien que nous connaissons tous. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Pythagore qui peut nous renseigner sur la culture tyrcène et donc la culture étrusque?
Ah ben écoutez, je cite des choses dans mon livre qui sont pas forcément de moi, mais qui sont inspirées d'autres chercheurs. Pythagore a un chercheur italien a comparé des choses qu'a fait Pythagore à ce qu'a fait Servius Tullius, lui, le roi étrusque de Rome. Et dans les deux cas, on a des récurrences de nombres, de chiffres, disons, et même de courbes, hein, qui sont étonnantes. Et je dis dans mon livre, c'est tout simple, le roi étrusque Servius Tullius a appliqué un savoir tircène, Pythagore a révélé à la Grèce un savoir tircène. Voilà. Et ce savoir tircène, là, je ne le dis pas dans le livre, mais c'est les conclusions qu'on peut tirer après, il venait de Mésopotamie.
On est tous les trois, grâce à vous d'ailleurs, fascinés par le peuple étrusque ce soir. Et dans le même temps, on apprend en vous lisant que c'est un peuple éminemment cruel, qui a pratiquement la cruauté, non pas pour valeur, mais pour pratique. Alors il faut nous expliquer de quelle manière c'est un peuple particulièrement cruel et pourquoi se distinguait-il de cette façon-là ?
Alors écoutez, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous avez fait dire tout à l'heure à Raymond Bloch va dans ce sens. Hein. C'est un peuple fasciné par la mort, moyennant quoi, une de leurs cruautés, c'était d'attacher un vivant et un mort. Pour tout le monde, être attaché à un mort, c'est pas très rigolo.
Pas très rigolo, non.
Non, mais pour les Étrusques, c'était une monstruosité. Hein, la mort était, oui, Raymond Bloch dit la vie continue dans la mort. Oui, mais dans les tombes. Moi, j'emmène tous les ans des gens voir les tombes de Tarquinia. Oui, mais ils sont dans les tombes. Hein. Elles sont magnifiques, les peintures de tombes de Tarquinia. Bon, donc les Étrusques savaient quand même ce que c'est que quelqu'un qui est mort, et donc une de leurs cruautés, c'était d'attacher un vivant et un mort pour le torturer. Hein. Et il y a beaucoup d'autres faits qui sont... J'ai fait tout un chapitre, tout un paragraphe, hein, sur cette cruauté étrusque. J'en viens à dire que à Athènes, il y avait un monument célèbre à Athènes dans l'Antiquité. Il a disparu, enfin, il était en bois. Mmh. Hein. C'était le monument du cheval. Et voilà, c'était un roi d'Athènes, un des derniers rois d'Athènes, qui avait une fille qui avait eu un amant. Et pour punir cette fille qui avait eu un amant, il l'a enfermée dans un local avec un cheval. Voilà. Donc la punition de la fille, la punition sexuelle de la fille, c'est d'être avec un cheval. C'est un peu la même idée que lorsqu'on met un mort et un vivant. C'est-à-dire que on met des êtres qui n'ont rien de commun au point de vue sexuel. Hein. Et simplement, le cheval doit faire souffrir la fille au point de vue sexuel. Alors pourquoi j'en parle à Athènes ? Parce que je dis aussi que c'est une chose ignorée, que plusieurs dynasties du monde égéen étaient d'origine tircène. Cette dynastie d'Athènes, son premier roi était un tircène, et la tradition s'est maintenue.
On continue à plonger dans ce monde étrusque avec vous, Julien Bisson.
Oui, vous parliez des jeunes filles. L'une des particularités de la culture étrusque, c'était aussi les relations hommes-femmes,
oui,
qui pouvaient paraître très surprenantes,
oui,
aux Grecs comme aux Romains. Pourquoi ?
Oui. Le pourquoi, là encore, on ne sait pas, on ne connaît pas la préhistoire, on connaît un peu, j'en parle dans mon livre, mais on ne connaît pas la préhistoire culturelle des Étrusques. En tout cas, c'est un fait frappant et même spectaculaire quand on étudie la culture étrusque. D'une part, on a les fameux sarcophages où un homme et une femme sont sculptés sur le couvercle. Ils s'enlacent, ils sont très heureux. Des fois, ils banquettent ensemble. C'était inconcevable pour les Grecs et les Romains. Les Grecs et les Romains, les banquets étaient entre hommes.
Vous voulez dire que c'était un rapport plus égalitaire que dans les,
oui,
autres civilisations antiques de l'époque ?
C'est ça, on peut dire ça. Je dis que, enfin, pour parler plus techniquement, disons, l'écart entre hommes et femmes était moins grand chez les Étrusques que dans les civilisations environnantes. Hein, voilà. Et je cite aussi ce fait extraordinaire. On a une image, toujours à Tarquinia, on a un endroit où il y a une foule, une petite foule qui vient voir un événement. Cette foule, elle est composée d'hommes et de femmes. C'est extraordinaire. Jamais dans la civilisation romaine, dans la civilisation grecque, si on voit une image de foule, ce qui n'est pas courant, si on voit une image de foule, ce sont des hommes. Rien que des hommes. Avec les Étrusques, il y a aussi des femmes.
Vous parliez de banquet, on va tirer ce fil hein, grâce à une archive et la voix de Françoise-Hélène Massa-Perrault, directrice de recherche émérite au CNRS. Elle nous décrit l'art étrusque du banquet.
Vous avez dans le fond le banquet avec les serviteurs qui, l'un prend une oinokoé pour verser le vin. Et vous avez sur les lits un homme et une femme. La femme qui est distinguée par sa couleur claire, blanc, avec ses cheveux blonds également. Donc vous avez deux couples homme-femme et un couple de deux hommes. Et sur la paroi de droite, vous avez les musiciens, donc le joueur de double flûte, avec son riche vêtement, avec ses franges bleues, qui joue un air pour réjouir toute l'assemblée au banquet, et un homme qui porte un petit coffret ouvert, et probablement il contient des objets précieux, des parfums ou des bijoux pour les dames qui sont au banquet. Et on y sent toute cette joie de vivre et toute cette représentation sociale aussi qui a été celle des Étrusques, c'est-à-dire c'était le peuple des gens qui vivaient bien. Ils sont là pour manifester ce qui fait leur essence d'êtres humains, c'est-à-dire des êtres qui communiquent entre eux, qui se réjouissent.
Alors je vous laisse prendre la main, Bernard Sergent. Quel était-il cet art étrusque du banquet? Comment est-ce qu'il se manifestait?
Il se manifestait justement en la participation des hommes et des femmes.
Là encore?
Bien sûr. Les Grecs, jamais. De toute façon, l'art du banquet, c'est surtout romain. Mais même si les Grecs, à l'époque hellénistique, ils commencent à faire des choses un petit peu semblables, c'est des hommes, rien que des hommes. Les Romains, le banquet, c'est que des hommes. Les femmes sont dans le gynécée, elles sont derrière. Elles vont pas participer au banquet. Chez les Étrusques, il y avait apparemment pas de gynécée. Les hommes et les femmes se fréquentaient. Je cite aussi des textes sur la liberté. La liberté des femmes étrusques était étonnante. Un texte nous dit, lui-même stupéfait, évidemment. Chez les Étrusques, une femme peut manger avec un autre homme que son mari. Inconcevable en Grèce. Ou à Rome.
Julien Bisson, stupéfait lui aussi.
Oui. Est-ce qu'on sait quelque chose de leur cosmogonie, de leur divinité, et de la façon dont celle-ci a pu ensuite inspirer, ou en tout cas infuser la société, la religion romaine, après la conquête romaine?
Alors, ça c'est encore une grande question, et assez complexe. D'abord, on a quelques indications chez les Romains, jamais les Étrusques. Hein. S'ils en ont parlé, on lit pas leur texte. Bon, les Romains en ont parlé un petit peu, et puis c'est surtout au 4e siècle de notre ère, que, comment il s'appelle, un auteur écrit les noces de Dionysos et de la philologie.
On le retrouvera plus tard.
Oui, je n'ai plus son nom en tête. Bon, et là, il nous raconte, effectivement, dans son premier livre, il nous fait des analyses, disons, des remarques qui sont directement... On le sait, il le dit, et puis on le sait par ailleurs, par les recoupements, directement prise à l'Étrurie. Et là, on voit, on entend parler pour la première fois de la conception du ciel des Étrusques. Et cette conception du ciel était extrêmement importante, parce que les Étrusques avaient une conception du monde telle que le ciel se reflétait sur Terre. Hein? C'est ce qu'ils ont donné à Rome, ce qu'ils ont essayé de donner à Rome. Les Romains ne pensaient pas ça. Mais par exemple, le Templum, ça vient de Temno, divisé, hein. C'est donc un morceau de ciel. C'est le ciel qui se projette sur terre et qui forme le temple. Alors les Romains pensaient pas du tout dans ces termes-là, mais les Romains ont subi une énorme influence étrusque.
Est-ce qu'il existe, au fond, Bernard Sergent, c'est aussi la question qu'on se pose en vous lisant, un seul et unique peuple étrusque, ou c'est, dans le fond, ce peuple-là, un agglomérat de différents peuples qui sont venus nourrir une population plus conséquente qui a trouvé une langue commune?
Alors là, vous posez encore une question très complexe. Je rappelle dans mon livre qu'il y a une inscription trouvée en Tunisie. Faut le faire. Mais c'est pas tellement surprenant. Bon, et cette inscription, elle est en étrusque. Celle-là, comme elle est courte, on l'a à peu près comprise. Et elle dit nous, les Dardanes, nous sommes ici, etc. Les Dardanes. Pourquoi les Dardanes? Quand on sait que les Dardanes, c'était un peuple du nord de la mer Égée, que Dardanos est un héros des îles du nord de la mer Égée, hein. Et alors faut dire, ah oui, faut préciser des choses. Étrusque n'est pas un mot étrusque. Étrusque est le nom latin de ce peuple-là. Hein, c'est la déformation du mot Tircène. Ils ont changé, ils ont pris Tircène, Tourcène, ils ont changé de le suffixe, au lieu de haine, ils ont mis qui, hein. Voilà. C'est une fabrication latine, ce mot-là. On ne sait pas comment s'appelaient les Étrusques eux-mêmes. Et bon, en tout cas, il y a bien une inscription, tunisienne, en Étrusque, où ils s'auto-désignent comme Dardanes. Bon. Ces Dardanes, ils ont joué, enfin, ils ont, je sais pas, les héros Dardanos, d'un peuple des Dardanes, ils ont joué un assez grand rôle dans le nord de la mer Égée. Et, autrement dit, là, exactement, où on situe beaucoup de Tyrcène, quand on connaît le dossier Tyrcène.
Merci beaucoup, Bernard Sergent. Je recommande d'ailleurs très vivement la lecture de votre ouvrage passionnant pour comprendre qui sont véritablement les Étrusques, la façon dont ils vivaient. Cette polémique aussi importante pour savoir d'où ils venaient. Ils ne venaient pas seulement d'Italie, ça c'est au moins une certitude. Et je rappelle que vous êtes archéologue, historien, Julien Bisson. Si l'on déplie cette semaine l'hebdomadaire Le 1, qui trouverons-nous ?
Eh bien, nous y trouverons Sylvain Prudhomme, la philosophe Claire Marin, et on se demandera où est-on chez soi, peut-être en Toscane, comme les Étrusques. En tout cas, on réfléchit sur les lieux de notre identité.
Un grand merci à tous les deux de cette discussion. Merci d'être venus ce soir dans Question du soir.
Et merci.